ça, tout d'abord, mes souvenirs avec l'espace multimédia Gantner et la mémoire que j'en ai est liée à mes deux passages dans le lieu. Le premier en 2003 pour une conférence qui s'appelait, je crois bien, la musique bruitiste et son histoire au XXe siècle. La date exacte étant, selon le petit carton que j'ai conservé, le 8 janvier 2003. C'était d'ailleurs une journée complète consacrée à la musique, on dirait expérimentale, l'art sonore, et avait été abordée lors de cette conférence, principalement, c'est pas étonnant venant de ma part, le courant dit futuriste, qui a été précurseur dans ce domaine, et donc évidemment la figure dominante de Luigi Russolo a été le théoricien et celui qui a vraiment conceptualisé l'idée d'utiliser le bruit pour en faire une matière de création sonore. Et alors j'avais développé ce jour-là, avec exemple à l'appui, puisqu'il y avait diffusion d'enregistrements que j'avais pu réaliser, d'exemple de ce que pouvait être la réalisation d'un art des bruits au sens authentique du terme, c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement la reproduction des bruits de la modernité, puisque comme on le sait, Luigi Russolo dans le Manifeste de l'art des bruits en 1913 appelait à s'emparer des bruits de la cité pour en faire les nouvelles symphonies sonores de la nouvelle ère mécanique et industrielle, mais l'utilisation par le biais de l'enregistrement, alors qui est devenu numérique aujourd'hui et qui a participé de l'intuition extraordinaire, d'abord de Giga Vertov, puis de Ruttmann, Walter Ruttmann, qui ont eu l'idée géniale d'utiliser la piste optique du film pour voir si l'on ne pouvait pas y fixer des sons et graver des sons. Et ça a marché, ça a même si bien marché, que c'est là l'origine du magnétophone, c'est-à-dire du son magnétique, du son enregistré sur une base magnétique. Et donc j'ai développé tout ça pendant toute une journée en expliquant comment Luigi Russolo, qui ne connaissait pas ces moyens techniques, étant disparu un peu rapidement, était parti, lui, dans la création de machines à bruit ou de bruiteurs, d'incanrumori, comme il les avait baptisés en italien, et reproduisait avec des ressorts, des bouts de ferraille, bon, c'était assez hétéroclite, faut quand même l'avouer, et sous une forme orchestrale, avec un chef d'orchestre qui dirigeait ses bruiteurs, eh bien, reproduisait les bruits de la cité, les bruits du monde moderne. Il a eu une deuxième inspiration, si on peut dire, avec le rhume harmonium, le russolophone, ça a pris plusieurs appellations diverses, qu'il a constitué toujours sur le même principe. Alors il y avait une sorte de clavier, et puis on agitait avec des bouts de ficelle, les ressorts, toute la ferraille qu'il y avait à l'intérieur de l'appareil. Il avait réussi à construire tout ça avec les déchets, les débris du téléphérique de Trièves, et avait emmené son appareil à Paris où il l'a joué au studio 23. Ce n'est pas, si l'on peut dire, et à juste titre, tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque Varèse, Schaeffer et d'autres, Pierre Schaeffer, ont été fascinés par ce qu'ils ont vu exécuté par Luigi Russolo. Et puis, Luigi Russolo, en 1938, quitte la France, ou 28, je ne me rappelle plus, pour vérifier la date, enfin, c'est peu d'importance,
toute la France abandonne cet appareil dans les caves parisiennes et part en Espagne pour se mettre à l'école d'une sorte d'ésotériste, de penseur dont les contours, la personnalité et l'identité exacte d'ailleurs n'ont pas encore été pleinement éclaircies. Et Luigi Russolo va quasi se désintéresser de la perspective artistique pour se mettre à l'écriture uniquement de textes de nature ésotérique. Ce sont les derniers textes que l'on possède de Luigi Russolo. L'un, le dialogue de l'âme avec Dieu, et puis le dernier sur la conception abstraite de la perspective métaphysique, tout à fait fascinant, parce que on arrive à trouver dans ces textes des réponses à la volonté absolument d'en finir, parce que là au moins il y a une constante avec le modèle instrumental classique, la gamme, pour atteindre les domaines de la pure abstraction intellectuelle et métaphysique. Finalement, ces textes peuvent parfaitement être réinterprétés, à mon avis, dans le cadre de la réflexion russolienne et dans la compréhension. Mais pendant ce temps, en Russie soviétique, avec Dziga Vertov, en Allemagne, avec Walter Gutmann, vont faire leur première apparition, ces films qui ne comportaient aucune image, d'ailleurs, Gutmann ayant eu vraiment, si on peut dire, l'audace et le courage de faire présenter ces films en salle alors qu'il n'y avait aucune image derrière, simplement pour y entendre des bruits enregistrés. Et là, on est vraiment dans l'art des bruits. Walter Gutmann, reprenant les intuitions de Dziga Vertov, ouvrant large les portes de la recherche contemporaine. Et puis, hélas, la Seconde Guerre mondiale va mettre un terme à toutes ces expériences. Et au retour, dans les années 46-48, en France en particulier, Pierre Schaeffer, avec les conceptions qu'il va développer sur les objets musicaux et la conception dite de l'électroacoustique, va d'une certaine manière faire un mixage, un mélange entre les conceptions de Gutmann et de Russolo et des conceptions philosophiques personnelles, qui sont d'ailleurs issues du philosophe Husserl, visant à créer des objets sonores, c'est-à-dire non plus en appréhendant les bruits concrets tels qu'ils sont, même si paradoxalement cette création musicale va s'appeler musique concrète, mais en imaginant des nouveaux objets sonores. Et c'est tout le développement de la musique dite acousmatique, électroacoustique, concrète, enfin, bon, etc., que l'on connaît. Donc voilà pour brièvement, très brièvement résumé, qui s'était déroulé de 10h à 17h dans cet espace où j'étais invité. Alors il y avait des étudiants qui prenaient des notes de manière très attentive, on diffusait des sons, des compositions sonores sur des haut-parleurs, parfois à un volume assez important, dans une ambiance très sympathique, et j'avoue avoir gardé un excellent souvenir à titre personnel de ce premier passage en 2003. Et